Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
C'est Calibre.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Kaléidoscope, 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet.
Voilà, Calibre, c'est une émission donc de libre antenne où vous nous appelez pour amener le sujet qui vous intéresse. Si vous avez des questions, des témoignages, des coups de gueule, alors c'est des sujets qui peuvent toucher donc, je sais pas, à vous, à nos pratiques sexuelles, à des questions sur, je sais pas, l'orientation sexuelle ou alors des questions de contraception. Plus largement de maîtrise de nos fécondités, de protection face aux infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que ça peut être encore, Calibre ?
L'amour, ou pas l'amour, nos relations, comment on gère les conflits. Enfin, ça peut être vraiment tout ce qui tourne autour de ce qu'on a entendu dans le jingle, corps, amour, sexualité.
Voilà, donc comment on sent large. Voilà, comment on sent bien ou pas dans notre corps. Est-ce qu'on est trop tatoué, pas assez, trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre. Enfin, tout ce qu'on nous renvoie qui nous va pas. Comment on s'en sort pour se sentir bien et tout ça quoi.
Donc ce soir, quand même, l'équipe de ce soir.
Tout à fait.
Donc Emma au micro,
Myriam également,
et pour vous accueillir au téléphone, il y a Maud, et à la table pour la mise en onde,
c'est Noémie.
Voilà.
Alors, on a pris l'habitude, donc peut-être on va déjà vous redonner le numéro de téléphone, ou vous donner tout court, hein, si vous débarquez avec nous ce soir. Donc pour nous appeler, c'est le 04 76 09 09 09.
Puisque Calibre est une émission d'antenne libre.
Donc ça, tout à fait.
Voilà, on le rappelle vite fait pour rappeler le principe quand même de l'émission. Donc vous pouvez nous appeler pour aborder tous ces sujets dont on vient de parler, poser des questions ou dire des colères, des joies, des voilà.
Et ou alors pour répondre à la question du jour.
Oui, puisque nous avons notre fameux quiz.
Alors, la question du jour. Qu'est-ce qu'une personne cisgenre ? Alors, cis, pas comme le chiffre, hein, c'est cis, C-I-S, comme, je sais pas, comme le début de ciseau. Bon, c'est pas une aide, hein, c'est pas du tout un indice.
Donc, ou cisjordanie.
Oui, ou cisjordanie, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors, est-ce que... Non.
Non, ça n'a pas de lien non plus. Ça.
Oui, bon, on verra. On en reparlera plus tard. Du coup, appelez-nous pour nous donner la réponse. Qu'est-ce qu'un homme cisgenre ou une femme cisgenre ?
Voilà, et on donnera la réponse en fin d'émission si vous n'avez pas appelé pour donner la réponse.
Voilà, alors pour la petite info, nous, on a trouvé cette question quiz parce que ce mot est apparu sous nos yeux et on a dû chercher la réponse. Hein. Donc, oui. C'est pas comme si on avait la science infuse non plus, on le dit souvent à Calibre, nous ne sommes pas des expertes, la preuve.
Alors, du coup, une petite musique pour faire une petite transition avec le reste. Ah oui, c'est moi qui suis censée l'annoncer.
Ouais,
donc, Hit the Road Jack, une reprise pas habituelle.
Oh, chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Hit the Road Jack en semblerait-il portugais ou quelque chose comme ça. Et si on vous a pas donné le nom du groupe, c'est qu'on ne le connaît pas parce que le morceau est issu d'une compile et malheureusement nous n'avons pas le nom du groupe. Voilà. Mais cela dit, tout ça, voilà, c'était la musique. Mais le principal est que nous avons une auditrice qui nous a appelé ce soir. Allô?
Allô?
Oui, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Tu voulais nous... Enfin, voilà, on te laisse un peu la place, là, à l'antenne, si tu veux nous dire quelle était, je sais pas, ta question, ta...
Oui. Alors, déjà, c'est Dan. Et je vous appelle parce que j'avais envie de discuter un peu de comment dire, de comment... Je sais pas trop comment me définir sexuellement parlant. Est-ce que je suis hétéro, bi, lesbienne, green? Je me pose pas mal de questions en ce moment. Du coup, j'avais envie de vous en parler.
Ok, bah c'est un sujet intéressant. On en a parlé un petit peu il y a peut-être deux émissions de ça, un truc comme ça, parce qu'il y a une auditrice qui se posait les mêmes questions, qui nous avait écrit un mail. Mais ce qui peut être intéressant là ce soir, c'est de pouvoir échanger en direct sur ce questionnement. Tu veux nous dire un peu les difficultés que tu rencontres par rapport à ça ou je sais pas, enfin difficultés ou questionnements?
J'ai commencé ma vie sexuelle en étant hétéro. Puis ensuite j'ai arrêté, je suis devenue lesbienne et là je suis de nouveau attirée par des hommes. Et voilà, donc et je sais, et en fait me dire lesbienne ça m'allait bien.
Oui.
Et du coup parce que je me reconnais pas mal là-dedans, mais du coup là j'ai quand même des relations avec des mecs, je suis attirée par des mecs aussi et je sais pas trop comment je peux me dire, me revendiquer, je sais pas trop.
Qu'est-ce qui t'allait du coup dans qu'est-ce que pourquoi t'aimais bien ce terme te définir comme lesbienne? C'est
c'est une bonne question. Je sais pas trop. C'est En fait, je pense que je me suis empêchée pendant longtemps d'avoir des rapports avec des femmes. Enfin, ou alors, je ne me suis pas spécialement empêchée, mais disons que je fréquentais que des hétéros, donc c'était pas trop possible. Et puis aussi plus jeune, quand j'étais attirée par des femmes, je pensais que c'était... Enfin, je pensais que l'homosexualité, c'était plutôt une maladie ou un problème. Donc, je me disais, bon, je suis attirée par des mecs, donc ça va, je suis hétéro. Mmh. Parce que je pensais qu'on était soit l'un, soit l'autre.
Ouais.
Et en fait, quand j'ai rencontré des lesbiennes et des féministes, ça m'a permis, en fait, d'exprimer ça, déjà, d'exprimer cette attirance et de partager des choses avec des femmes. Mmh. Et puis aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses dans les rapports hétéros qui m'allaient pas, enfin qui me vont toujours pas. Je trouve que c'est souvent des rapports inégalitaires, donc j'étais pas très à l'aise vis-à-vis des rapports hommes-femmes. Souvent, je me mettais en colère contre mes amants et mes copains parce que c'était ça. Je trouvais qu'ils étaient pas très généreux. Mmh. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir des rapports avec des femmes, ça m'allait beaucoup mieux en fait. Parce que justement, on partait d'une position à égalité, il n'y avait pas de rôle prédéterminé, il n'y avait pas ni sexuel, ni affectif, ni dans la vie domestique, il n'y avait pas de rôle quoi. Ça se négociait entre nous, enfin ça se négocie toujours d'ailleurs.
Oui.
Et voilà quoi, donc ça m'allait bien. Et puis du point de vue, enfin comme je suis féministe, c'est plus facile quoi d'être lesbienne, je trouve.
Et là j'ai l'impression que tu parles de la pratique, en fait, de relationner, d'être en relation avec des femmes qui t'allaient bien, et moins ce que ça te fait le fait de te définir par ce terme.
Ouais, mais aussi c'est quand j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes, c'était important de pouvoir le revendiquer.
Ouais.
Parce que tout le monde s'imagine que t'es hétéro, en fait. Et du coup, de dire, bah non, je réponds pas à ces modèles-là, je dévise la norme, je rentre pas là-dedans, c'est important aussi pour moi, en fait. Et ça le reste, en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que si je dis que je suis bisexuelle, ça répond, en fait... Enfin, parfois, j'ai l'impression que ça répond encore plus à une norme, à une certaine norme, que ça la bouscule, en fait.
Mais par rapport à ça, est-ce que ton sentiment, c'est je suis une traître à la cause, ou bien oui, mais finalement, la démarche de la bisexualité, est-ce que c'est pas un peu libéral, du genre il y a du bien dans, il y a du bien partout, on n'a qu'à piocher ce qui nous convient, et puis un coup c'est un homme, un coup c'est une femme, c'est chouette, on pioche parmi un grand éventail de choix. Enfin, je sais pas, est-ce que toi, enfin, par rapport à la bisexualité qui est un terme avec lequel t'as du mal à te définir, est-ce que c'est tout ça qui te traverse, ou est-ce que c'est autre chose?
Non, enfin moi j'ai l'impression que j'ai toujours été attirée par les gens des deux sexes.
Mmh.
Et autres.
Ouais.
Donc j'ai pas de je suis attirée par des gens en fait. Donc
Oui, donc c'est pas la question de toi d'avoir envie d'avoir ces relations avec tout type de personnes, indépendamment de leur sexe, leur genre et tout ça. C'est pas le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'image qui est accolée à cette question de la bisexualité, et que du coup, si tu te définis comme ça, tu peux pas revendiquer en gros une ouverture des champs possibles de l'amour et du sexe, quoi.
Ben. Ouais, j'ai l'impression que, enfin, dans la tête de la plupart des gens, être bi, c'est être hétéro avec des aventures lesbiennes.
Ouais.
Ou alors c'est être hypersexuel.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est un truc, cette fille, elle fait tout. J'ai l'impression que ça donne vraiment une image plutôt sexy plutôt qu'un truc revendicatif, quoi.
Ouais.
En fait, je m'en fous de ce que les gens ont entre les jambes, c'est ce qu'ils sont et la façon dont ils sont avec moi qui m'importe, quoi. Mmh.
Ouais, puis c'est vrai qu'il y avait cette excuse-moi, il y avait cette cette auditrice justement qui témoignait en disant en plus bisexuel ça renvoie encore à la bicatégorisation, c'est-à-dire le simplement le fait de relationner soit avec des hommes soit avec des femmes, ce qui est assez restrictif quant à la diversité de genre qui peut exister et qui pourrait exister en fait. Et elle disait que par exemple ça lui convenait pas aussi pour ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure.
Mm-hmm.
Que t'étais attirée par tout type de personnes et que du coup...
Voilà.
Mais toi, t'aurais envie de trouver un terme pour te définir ou...
Ouais. En fait, moi, du coup, ce que je fais, c'est que je me dis lesbienne, toujours.
D'accord.
Enfin, à part avec les gens que je connais plus, qui connaissent mes relations, et je parle de mes relations, en fait, je ne me définis pas. Mais globalement, j'ai tendance à me dire lesbienne parce que je trouve que c'est beaucoup plus proche, enfin, l'image sociale que ça donne, c'est beaucoup plus proche de ce que je suis, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, je veux pas de rapport avec des mecs qui m'exploitent.
Mm.
C'est-à-dire ça, de toute façon, c'est hors de question. Donc, et aussi, je pense que c'est pas parce que je suis attirée par des mecs que je tombe pas plus amoureuse des femmes. En fait, globalement, je tombe plus amoureuse des femmes.
Mm.
Et c'est vrai que j'avais répondu une fois à un questionnaire où il disait, est-ce que vous êtes... homosexuel, majoritairement homosexuel, majoritairement lesbienne, lesbienne, bisexuelle. Mmh. Et je trouvais que majoritairement lesbienne, ça m'allait bien.
Ouais.
Je me disais oui, ouais, c'est pas mal. Mmh. Donc j'ai coché cette case-là où je m'étais dit ouais, c'est plutôt comme ça que je me définirais, quoi. C'est-à-dire que j'ai des attirances pour des hommes, je peux tomber amoureuse de mecs, quoi. Mmh. Dans certaines conditions, en fait.
Moi, ça me paraît pas mal, effectivement, comme... Bon, il y a toujours ce besoin de rentrer dans des cases qui est compliqué, parce qu'un terme va jamais définir une personne, et puis ça évolue et tout. Mais ceci dit, effectivement, pour lancer la discussion ou pour répondre, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir des mots. Et je trouve qu'effectivement, ce majoritairement lesbienne, il a le mérite que si la personne ne veut pas discuter plus, eh ben le truc est posé. Enfin, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire majoritairement lesbienne. Parce qu'en fait, quand on discutait avec l'autre auditrice ou l'autre équipe, avait trouvé des mots qui existent, pansexuel, enfin des mots que personne connaît. Alors ça peut être une stratégie de vouloir développer ces mots-là, mais ça veut dire qu'effectivement après, ben faut prendre le temps de les expliquer.
Tu veux redire ce que ça veut dire pansexuel?
Alors, il faut que je me rappelle.
Je crois que c'est ce truc-là d'avoir envie de relationner avec tout type de genre, en fait, tout type de personne.
Mmh.
Ça veut dire tout.
Bon. Ou alors, ça peut-être dire biféministe.
Biféministe, ouais. Oui, parce que c'est ça. C'est que dans pansexuel, il n'y a pas forcément... À part cette notion de peut-être sortir de ou homme ou femme, donc il y a plus de genre, sinon il n'y a pas plus que ça une notion de revendication, je dirais, politique, alors que effectivement le terme lesbienne, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, est associé à une revendication politique, à une représentation du monde à évoluer, quoi.
Ouais, parce que enfin moi je sais que je pense qu'aussi dans le problème de me dire bisexuelle, je pense que j'ai pas mal craché moi-même sur les bisexuels.
Ouais.
Parce que les expériences que j'ai eues avec des filles qui disaient bisexuelles, c'était globalement des filles qui avaient des relations avec des mecs amoureuses, qui couchaient de temps en temps avec des filles. Et moi ça me convenait pas, en fait, ça me satisfaisait pas comme relation. Et je trouvais aussi qu'en plus, enfin, moi, je voyais vraiment une différence dans le comportement avec des filles qui étaient plutôt lesbiennes ou que lesbiennes, quoi.
Oui.
Moi, j'ai dans mon expérience, il y avait vraiment une différence, justement, dans l'approche de l'autre, quoi.
Oui.
Et du coup, je mangeais du mal à me dire bi aussi, parce que je m'identifie pas à ces filles que j'ai rencontrées, quoi.
Oui.
Je m'identifie pas, justement, moi, j'ai l'impression que... J'ai plutôt des histoires avec des femmes et des aventures avec des hommes.
Ouais. Et d'ailleurs, tu réponds si tu veux, hein, t'es pas obligé, mais dans les aventures que t'as avec des hommes, c'est des hommes majoritairement hétéros, qui peuvent être bisexuels, ou est-ce que tu ressens cette différence aussi, du point de vue des hommes, comme tu ressens entre plutôt des filles qui seraient lesbiennes exclusives et puis des filles qui seraient plus bi?
Bon, j'ai pas des tonnes d'aventures avec des hommes, donc ça va pas être sur un grand... une grande expérience, mais j'ai eu une aventure là, enfin depuis que je me dis lesbienne, j'ai quand même eu deux aventures avec des hommes qui sont bi. Mm-hmm. Et par exemple, je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qui sont bi qu'avec les hommes hétérosexuels. Mm-hmm. Parce que je pense que, enfin, parce qu'il y a une ouverture du coup dans laquelle je me reconnais, quoi. Mm-hmm. Notamment du point de vue de la sexualité. J'ai l'impression que les hommes bisexuels, j'ai moins à tout leur apprendre que. Enfin, tout leur apprendre. Mm-hmm. T'as des hommes hétérosexuels qui sont quand même un peu. Je dis ce que je pense, hein, qu'ils sont un peu évolués, mais. Je les sens, ça réfléchit à la question avec leur copine, mais globalement, je m'entends mieux avec les. C'était ta question, si.
Oui. Non, c'est parce que j'essaye de voir en fait comment.
En fait, je m'entends mieux avec les hommes bisexuels et je m'entends mieux avec les femmes lesbiennes.
Ouais. Mais en tout cas, tout ça, c'est. Enfin, c'est moi, ça me fait bien cogiter parce que j'ai l'impression que c'est des enjeux aussi quand même dans les communautés entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce que moi je peux, enfin là, ce qu'on est en train de discuter là ce soir, je me dis que c'est marrant, j'ai des images de copines dans la tête qui pourraient être en colère par rapport à ce que, enfin tu vois, de dire mais comment ça, des lesbiennes qui se définissent comme lesbiennes alors qu'elles ont soit des histoires, soit des aventures avec des hommes et tout ça. Et en fait, moi, je trouve intéressant en fait de raconter tout ça parce que pour moi, c'est important aussi de briser un peu le mythe de la pureté, enfin, ou ce qu'on pourrait dire comme pur, comme démarche, parce que en fait, là, c'est toujours pareil. Il y a un panel et une diversité de pratiques qui est hyper grande, qui est au moins aussi grande que le nombre de personnes qui relationnent entre elles et qui pratiquent des sexualités ou des sentiments entre elles et tout, et que c'est jamais soit on est dans telle case, soit on est dans une autre, et puis en fait nos pratiques elles sont comme ci ou comme ça, en fait les choses elles évoluent, nos envies aussi, et en plus, ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir redire que c'est pas nos pratiques sexuelles qui nous définissent uniquement, mais bien notre sociabilité aussi. Et c'est-à-dire que on pourrait très bien se dire que une femme, elle se définit ou elle se sent lesbienne parce qu'elle a, par exemple, une sociabilité,
sociabilité, oui. Ça veut dire passer du temps avec,
oui, voilà, consacrer de l'énergie, de l'attention, beaucoup, ou des activités, faire beaucoup d'activités avec essentiellement des femmes, et effectivement avoir des histoires sentimentales ou sexuelles avec des hommes, mais ça prend pas forcément une grosse place dans leur vie ou des choses comme ça, et du coup ça peut être aussi ça, se dire ben moi je me sens ou je me définis comme lesbienne parce que dans ma vie de manière générale il y a surtout des femmes en fait, et moi je trouve que ça c'est super intéressant, et c'est pas une question de est-ce que t'es vraiment lesbienne parce que t'as couché ou pas avec des hommes en fait.
Donc quelque part dissocier les pratiques sexuelles d'une identité sexuelle qu'on choisirait de se donner et de revendiquer. Et qu'on peut aussi distinguer d'ailleurs du sentiment amoureux. Enfin voilà, c'est plein de choses différentes.
Ouais, ouais, après, moi je trouve ça pas si simple.
Bah c'est clair, c'est pas si simple.
Parce que en fait, moi j'ai l'impression que aussi quand on est féministe, qu'on refuse donc des rapports inégalitaires dans son couple homme-femme. Enfin, moi j'ai pas mal de copines lesbiennes et qui avec qui qui prendra assez mal de savoir que j'ai des rapports avec des hommes.
Oui, c'est à ça que je pensais aussi.
Avec des nids, quoi.
Ouais.
Enfin, et en fait, enfin, quand j'ai eu une période vraiment lesbienne 100% et je discutais avec une copine qui était très féministe et je lui disais mais comment tu fais pour avoir des rapports amoureux avec des hommes, et elle m'avait répondu c'est de la négociation tout le temps, quoi. Mm. Tout le temps redéfinir, tout le temps négocier en fait les termes de la relation, tout le temps revenir sur ces histoires de rôles qu'on nous a appris et tout ça. Et je m'étais dit, ah ouais, en fait, c'est ça, quoi. Enfin, et moi, c'est vrai que dans ma vie, j'aurais plutôt envie de choisir, en fait, de pas avoir à négocier dans mes relations amoureuses. Après, de fait, moi, ça m'arrive d'être très attirée par des mecs, quoi.
Mm-hmm.
Et c'est ce désir-là, quoi. J'ai ce désir et à un moment, je trouve ça un peu con de me dire, ben, finalement, je refuse de vivre ce désir parce que j'ai pas envie de négocier.
Mm.
Et du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cédé à mon désir.
Ouais.
Et du coup, je me retrouve, oui, en effet, à négocier, quoi. Mais ça me va aussi, en fait. Enfin, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a, dans mes relations amoureuses avec des femmes, on négocie aussi, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais, pareil. Parce que, mine de rien, dans les rapports sociaux, c'est pas que les rapports sociaux de sexe, c'est les rapports sociaux de classe, les rapports sociaux dits de race, ou je sais pas quoi, et du coup, entre femmes, il peut y avoir ces enjeux-là aussi, en fait. Du coup,
oui, puis il y a les enjeux de l'histoire. Enfin, j'ai l'impression qu'aussi, il y a les enjeux de histoires d'amour, quoi, en fait. Enfin,
ouais.
Si globalement, quand tu deviens très proche de quelqu'un et que tu construis une histoire avec, qui a quel rôle, qui fait quoi, jusqu'où ça va, enfin, c'est des choses qui se négocient tout le temps, en fait.
Mm.
Qui fait la bouffe, bon, entre femmes, parfois ça peut être, c'est moins, la négociation est moins courue d'avance, genre les rôles qu'on attribue, mais parfois ça peut être aussi justement super fort, quoi, parce que justement, comme les rôles sont pas donnés d'avance, qui va faire la bouffe, qui va faire la vaisselle, des fois ça peut être tendu aussi, quoi.
Mmh. Ouais, en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant de se dire que effectivement un rapport, enfin une relation dite homosexuelle et une relation dite hétérosexuelle, c'est pas la même chose, et effectivement il n'y a pas les mêmes implications en termes de rapport de pouvoir ou oui, essentiellement ça, mais en tout cas avoir une relation par exemple en tant que femme avec une autre femme, ça ne veut pas nécessairement dire non plus que cette relation elle va être exclue de tout rapport compliqué ou de rapport de pouvoir ou rapport de négociation comme tu dis, parce qu'il y a d'autres choses qui nous traversent que nos constructions genrées, en fait, que nos constructions en tout cas sociales en tant que fille ou en tant que garçon, et ça c'est bien de pouvoir se le dire, quoi. Et parce que des fois il y aurait comme cette évidence en fait que ce serait plus facile d'avoir une relation amoureuse ou sexuelle ou je ne sais quoi avec une femme en tant que femme, parce que voilà, on connaît les enjeux des rapports de domination dans cette société et tout, mais n'empêche que voilà, comme tu disais, c'est pas si simple que ça, et on va devoir se battre aussi contre d'autres choses dans la relation.
Oui, ça c'est sûr. Je témoigne.
Ouais, voilà, comme on disait, le rap, aussi les conceptions de l'amour, ou la jalousie, enfin plein d'autres choses aussi hein, qui sont en jeu, y compris dans les relations entre femmes, quoi.
Oui.
Et, ouais.
Oui, oui, puis c'est vrai que moi, pour parler juste de ce que j'ai vécu, moi je suis plutôt attirée par des femmes qui sont assez vindicative, assez révoltée, tout ça, et j'en fais partie, et on a un mauvais caractère, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est bête à dire, mais moi, globalement, avec mes copines, c'est compliqué, parce qu'on a des putains de caractères, de guerrières, quoi.
Ouais.
Et qu'on n'est pas tendre, quoi. Mmh. Et même si on s'aime beaucoup et qu'on est très solidaire et tout ça, moi, globalement, quand je sortais avec des mecs, j'étais plutôt attirée par des mecs gentils et bonnes pattes. Ben, ça me fait une différence quand je parle avec des guerrières qui sont des filles plutôt avec un caractère bien trempé, et c'est pas facile quoi,
ouais.
Ce jour.
Ce qui peut se retrouver aussi dans les choix d'amitié, enfin, les problématiques peuvent être assez similaires, pas exactement les mêmes, mais...
Ben, ça c'est sûr.
Ouais.
Ouais. Et puis oui, je voulais juste dire un truc aussi sur... en fait, moi, j'ai l'impression que comment dire. enfin moi ce qui me pose problème avec cette histoire de bi, c'est les clichés qu'il y a sur ça en fait. Mm. Et je trouve que c'est pas pareil que les clichés qu'il y a sur les homos. Mm. Moi si quelqu'un me sort des clichés sur les lesbiennes, je vais dire ouais je suis une grosse gouine, je vais y rentrer dedans quoi, parce que c'est des clichés essentiellement négatifs.
Ouais.
Alors que les clichés sur les bi, c'est plus pernicieux. Et puis il y a toujours cette idée que une femme, en fait, enfin, il y a plein de mecs surtout qui comprennent pas que les femmes, elles sont faites pour eux, et du coup, on doit être sexuellement disponible pour eux. Et du coup, déjà, quand t'es lesbienne, c'est parce que t'as pas rencontré le bon mec ou que t'as eu des problèmes avec les hommes. Mm-hmm. Mais alors, quand t'es bi, c'est pire, quoi.
Oui, c'est presque où tu vas chercher des femmes pour exciter ton homme, quoi.
Ouais, c'est limite ça, quoi. Et c'est horrible, c'est ouais. Con, et j'évite de dire au mec que je suis bi parce que je me dis, c'est affreux, je vais encore plus me faire draguer.
Ouais, mais du coup, tu peux pas non plus, enfin, si t'es en relation intime avec un gars, tu peux pas non plus te dire, te définir comme lesbienne tout court, effectivement. Du coup, c'est dans ce cas-là que, c'est dans le cas où il faut que tu te définisses par rapport à un gars que se pose la question pour toi. Parce que c'est pas vraiment la même problématique, je trouve. De comment tu te définis dans cette relation avec un gars et puis avec tes copines ou tes amies ou amantes femmes quoi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça renvoie pas à la même chose de se définir comme bi ou comme lesbienne dans les deux cas.
Non parce que du coup les mecs qui je couche ils se disent que je suis bi. Mm. Je pense du coup voilà quoi. Il y a pas, on n'en parle pas. Bon, pas spécialement.
Ouais.
Et non, moi c'est plutôt soit par rapport aux gens que je connais pas, je préfère dire que je suis lesbienne.
Ouais.
Du coup, assumer une certaine discrimination, mais que je trouve en fait plus juste par rapport à ma position. Mm. Et après, ouais, par rapport aux copines féministes ou lesbiennes, ou des milieux carrément lesbiens, moi je pense que c'est plus dans ces milieux, à la limite c'est marrant parce que c'est à la fois des milieux qui m'ont aidé à assumer le fait que j'ai envie d'avoir des relations avec des femmes, et d'un côté c'est aussi des milieux peut-être plus discriminants sur ça. C'est-à-dire que dire que je suis bi dans un bar lesbien ou dans une communauté féministe, et ben c'est pas, je pense, enfin j'y ai pas été encore trop confrontée, mais je pense que c'est pas facile quoi.
Mais
c'est encore plus difficile qu'ailleurs.
Moi, j'ai la sensation que c'est beaucoup associé à ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être c'est justifié dans le sens où il y a la peur que pas mal de nanas se définissent comme bisexuelles alors qu'elles ont une sociabilité ou des relations majoritairement avec des garçons et de temps en temps avec des femmes.
Mmh.
Tu vois, et que ça, effectivement, moi, je peux comprendre que ça fout un peu la rage, en fait. Parce qu'il y a un peu, parce que c'est un peu du mensonge, en fait. Enfin, comment dire? En fait, c'est compliqué, parce que faudrait quantifier ou placer un curseur qui te définirait à partir d'une certaine limite bisexuelle ou je sais pas quoi, mais en tout cas, moi, je crois que je vois cette idée-là, de en tout cas faire attention qu'est-ce qu'on met derrière bisexuel.
Mmh.
Est-ce que effectivement on consacre du temps et de l'énergie et de l'attention de manière à peu près équilibrée entre guillemets avec des femmes et avec des hommes, enfin, ou est-ce que en fait il y a des femmes qui se définissent comme bi alors que elles sont majoritairement hétérosexuelles en fait ou hétérosociales. Enfin.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ça peut venir de là en tout cas, les réticences ou les crispations qu'il peut y avoir autour de ce truc là de bisexualité quoi. Et que t'as pas envie justement, comme on disait, d'être la petite aventure qui met du piment dans ta vie. Ah, c'est cool. Je couche avec une femme de temps en temps pour m'amuser et pour donner un petit côté subversif à mon quotidien, on va dire, et que ça pourrait être une forme de maltraitance aussi vis-à-vis des personnes, en fait, d'avoir la sensation d'être la petite le truc de passage affriolant comme un petit bonbon qu'on s'offre de temps en temps, quoi.
Ouais, moi ça m'arrive assez souvent d'être draguée par des filles.
Ben voilà, donc c'est ça en fait.
C'est fini, t'as pas un morceau de sushi, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça me donne la même impression que des mecs qui te draguent vraiment parce que t'es exotique ou parce que t'as un beau cul, quoi.
Ouais.
Ça me donne vraiment cette même impression et puis c'est bizarre, en plus t'as des filles hétéro qui croient que parce que t'es lesbienne, tu vas coucher avec elles parce que sont mignonnes et
ouais.
Ou elles arrivent vers toi et t'as vraiment cette impression un peu d'être un objet, quoi. D'avoir envie de, ah ouais, tiens, il est bien dans le coin, allez hop, j'aurais qu'à me la taper.
Ouais, c'est ça.
C'est déjà qu'à la taper, oui, mais non.
Ouais. Et ouais, du coup, c'est ça, c'est comment on peut, encore une fois, promouvoir dans nos pratiques des rapports égalitaires aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire comment tu considères les personnes et le temps, l'attention que tu leur consacres, etc. Ça veut pas dire que toutes les personnes avec qui tu couches, tu dois avoir une histoire ou je sais pas quoi, mais par contre... faire attention quand même à ce truc-là de comment... dans une identité en tout cas par exemple de lesbienne, comment ça peut être difficile d'être confrontée régulièrement à des nanas qui vont venir te consommer entre guillemets alors qu'elles ont un quotidien hétéro très fort et que ce serait pas juste de considérer que c'est cool et que c'est léger et que ça va comme ça, quoi.
Oui, après, c'est dans tout type de relation. De toute façon, c'est pas juste de considérer l'autre comme un objet ou un bonbon. Enfin, voilà.
Oui, c'est
mais
ça.
Effectivement, on oublie souvent aussi ce côté-là.
Ouais, c'est que en fait, c'est pas pareil. Et les personnes homosexuelles, elles ont pas les mêmes difficultés elles se confrontent pas à la même chose au quotidien, quoi. Enfin, que les hétéros, et ça, c'est clair, quoi. Enfin, voilà.
D'ailleurs, moi, c'est un truc super bizarre parce que du coup, ça faisait 6 ans là que j'étais plus qu'avec des femmes, et là, donc, j'ai un amant et j'ai rencontré ses amis, enfin, un peu son cercle d'amis, tout ça. Et c'est hallucinant en fait de voir les gens comment direct il classe hétéro. C'est-à-dire comme je suis avec lui alors que lui aussi débit, on prend tout de suite pour une hétéro, c'est-à-dire que les gens se posent même pas la question. Et puis à quel point ça suscite de la sympathie, quoi. Dans la rue, j'ai oublié.
Ouais.
C'est le petit couple hétéro, c'est affreux, quoi. C'est affreux, c'est par contraste avec ce que je vis avec ma copine. Tu vois, on n'attire que de l'hostilité, quoi, quasiment. Et là, de voir à quel point, socialement, c'est... Vraiment, les gens sont hyper sympas avec nous, quoi.
Alors, l'émission de la semaine prochaine va être là-dessus. On l'annoncera plus en fin d'émission, mais ça sera sur, justement, ces rappels à l'ordre de l'hétéronormativité. Comment on nous rappelle tout le temps qu'il faut être hétérosexuel. Mais j'en parlerai plus tout à l'heure.
Ouais, c'était... Bah, du coup, une fois... On était chez des amis à eux, lui. Et à un moment, ils sont venus faire des blagues sur les PD, les homos. Mais pendant un quart d'heure, c'était horrible, quoi. Et moi, je les connaissais pas, ils me connaissaient pas, ils savaient pas que moi, globalement, je suis lesbienne. Et je me mettais à rougir, j'en pouvais plus.
Ouais.
J'étais là, ah! Mais sûr que voilà, j'étais pas lesbienne, quoi.
Ouais.
Là, tu te dis, ah, c'est pas... Parce que, bah oui, j'étais avec ce mec, j'étais présentée comme, voilà, avec lui, quoi. C'est ça fait bizarre. Oui, non, déjà, j'ai une grosse bouillie. C'est pas crédible.
Après, peut-être, t'es pas obligé de trouver non plus une définition pour tout le temps. Tu peux trouver une définition en fonction des situations dans lesquelles t'es et ce qui, l'énergie que t'as pour discuter ou pas à ce moment-là. Voilà, par exemple, dans ce type de truc, tu peux, de contexte, d'ambiance, tu peux sortir un espèce de mot genre pansexuel que les gens ne connaîtront pas, comme ça tu orientes la discussion, et puis après, si tu veux pas, juste tu dis rien.
Pour ces différents termes là, du coup moi je me rappelle pas de tout, mais je veux bien rappeler que c'était l'émission du 5 mai qui est donc sur notre site internet où je crois que l'émission entière elles ont discuté de ces termes pour se définir.
Et du coup on va peut-être repasser Maud qui va te réaccueillir au standard téléphonique et te remercier pour ton appel et
enfin, voilà, après si t'as quand même envie de dire quelque chose ou d'aborder autre chose, on te met pas non plus dehors parce qu'on est super contente de pouvoir discuter avec une auditrice en direct pour une fois.
Oui, ouais. Je voudrais passer le bonjour à ma maman. Et puis au lycée
est-ce que tu veux dédicacer le prochain morceau?
Oui.
Alors le prochain morceau, c'est The Avengers, Paint in Black, et c'est une réinterprétation des Rolling Stones. Alors est-ce que tu veux le dédier à quelqu'une ou à quelqu'un?
Oui, je voudrais le dédier à toutes les femmes formidables langues de toutes les personnes qui battent le chanteur des Rolling Stones, qui est vraiment, vraiment beaucoup trop monosexuel, quoi.
Eh ben merci Hélène, à bientôt, on se passe mode.
Ciao.
Salut.
I'm not afraid to die.
est libre ce soir. Donc nous venons d'avoir un appel très intéressant d'une auditrice sur la question de comment se définir, lesbienne, bi, tout ça, si vous avez quoi d'autres émissions. Et on va vous rappeler un petit peu le quiz du soir, parce que si vous avez essayé de nous répondre, eh bien le téléphone était occupé, vous n'avez pas pu nous avoir, mais vous pouvez retenter votre chance. Donc on vous redonne d'abord le numéro de téléphone, donc le 04 76 09 09 09. Et la question du soir qui est: qu'est-ce qu'une personne cisgenre, cis, tout attaché, un homme cisgenre, une femme cisgenre, voilà. Et puis vous pouvez aussi nous appeler pour nous parler d'autres choses si vous voulez.
Alors, du coup, nous, on a envie de parler un peu d'un événement auquel on a assisté il n'y a pas très longtemps. Sur Grenoble, il y avait une conférence. Le 8 mai dernier, qui s'intitulait « Femmes, voiles et féminisme ». Donc cet événement a été organisé par les indigènes de la République, voilà. Le Parti des indigènes de la République, donc le pire. D'ailleurs, ils ont un jeu de mots. Où
un super.
Le pire est à venir.
Ouais. Et à venir en un seul mot.
Voilà. Et donc, à cette conférence, il y avait, si je me souviens bien, 4 intervenantes et intervenants, 2 femmes, 2 hommes. Et du coup, nous, on avait envie de partager un petit peu ce qui s'est dit ce jour-là, parce que c'est une question qui rentre dans les thèmes qu'on aborde souvent à Calibre, et qui est en particulier sur le rapport au corps, en ce qui concerne le voile en l'occurrence. Et là, on a envie de partager un petit peu surtout les propos qu'une des femmes a tenues ce jour-là, qui s'appelle Esmane Schuller.
Ouais. Juste peut-être, c'était une après-midi entière de discussion hyper intéressante. Et il y a l'émission dont on a déjà parlé, là, l'émission grenobloise, l'émission féministe qui s'appelle Dégenrée, qui va consacrer leur émission du mercredi 8 juin à cette thématique avec des extraits de la conférence. Donc là, on va vraiment faire juste un zoom sur quelque chose, mais il y a eu plein d'autres choses de dites. Donc vraiment, on vous renvoie sur cette émission Dégenrée du 8 juin pour plus d'infos.
C'est pour vous donner envie de l'écouter. Donc en fait, cet événement, il a été organisé ce jour-là aussi pas par hasard, parce que le 8 mai, en général, on commémore cet événement qui est quand même la libération du 8 mai 45, et on célèbre la victoire entre guillemets des alliés,
des gentils,
des gentils qui ont gagné contre les méchants. Et sauf que justement, ces personnes-là qui organisaient cette conférence, elles ont voulu rappeler que elles commémorent en tout cas la mémoire des personnes qui ont été massacrées à Sétif, notamment
donc les indigènes de la République, donc du temps des colonies, et là notamment on parle du Maghreb et de l'Algérie, donc des gens qui ont combattu aux côtés des Français, en tant que Français même, Français de sous-catégorie, parce que il y avait 2 statuts à l'époque pour les Français de France et puis les indigènes des colonies. Et du coup, le 8 mai 45, comme la France avait gagné, on n'avait plus besoin d'eux, puis on n'avait pas envie de leur verser des pensions. Du coup, le jour même, ils ont été massacrés. Donc il y a des milliers de personnes qui ont été tuées ce jour du 8 mai 45, quoi.
Voilà, dans les casernes.
Pas dans les combats, dans les casernes, quoi, des assassinats.
Voilà. Donc, Esmane Schuller, je vais essayer de faire un peu une synthèse de ce qu'elle a dit ce jour-là, et je vous renvoie vraiment à cette émission qui va être faite et qui parlera plus en détail, en fait, de cette question-là et tout. Mais en tout cas, ce qu'elle disait, c'est que cette question du voile, elle montre à quel point il y a une racialisation des questions sociales, en fait, concernant les femmes musulmanes. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a une obsession pour le sort des femmes musulmanes. Alors, une soi-disant obsession. Et que, c'est, au bout du compte, une instrumentalisation des arguments féministes à des fins racistes, puisque ce qui est montré officiellement, c'est qu'on se préoccupe du sort des femmes musulmanes qui sont
toujours montrées comme des victimes à qui on impose de porter le voile, etc. Et que c'est le symbole de la lutte contre le patriarcat, alors que jamais on leur demande ce qu'elles ont à dire là-dessus et comment ça peut être aussi une pratique qui est complètement choisie et qui peut être tout à fait légitime, etc., etc. Et donc elle rappelle qu'elle se bat contre le modèle hégémonique et unique du féminisme, parce que c'est aussi ça que en fait la question, ça devrait pas être pour ou contre le voile, mais plutôt quel respect on peut avoir pour chaque femme de sa façon de s'habiller et comment elle choisit de s'habiller, parce que c'est quand même essentiellement ça. Alors peut-être pour rappel, cette question-là, elle a été beaucoup médiatisée et discutée notamment en 2004 par rapport à cette histoire de la loi qui visait à interdire le port de signes ostentatoires religieux, comme ils ont dit, qui était en fait une loi pour interdire le port du voile à l'école.
Ouais, du foulard, ouais.
Voilà. Et du coup, il y a eu tout un déferlement médiatique et politique autour de cette question-là, et c'est devenu un vrai enjeu. Et donc, elle, ce qu'elle avait à dire aussi, cette femme-là, c'est que en fait, elle pose la question de quelles sont les stratégies de chaque femme pour s'émanciper. Et du coup, elle revendique le droit de défendre, elle revendique le fait qu'on a le droit de défendre le droit à ne pas porter le foulard, mais aussi le droit à le porter.
Pour soi, dans tous les cas.
Voilà, tout à fait. Non pas comme un truc universel qui nous conviendrait à toutes ou quoi, mais qu'en tout cas, chaque femme pourrait avoir le droit de choisir et ne pas être systématiquement stigmatisée et accusé entre guillemets d'être manipulé ou soumise à un ordre soit patriarcal soit religieux, enfin voilà quoi. Et que en conclusion, elle dit que elle est pour un féminisme qui inclut la diversité des stratégies utilisées par les femmes et que les femmes elles choisissent pour elles-mêmes en fait et on a le droit de s'émanciper selon son vécu, son rythme, ses priorités, et que en l'occurrence, les femmes, elles savent, c'est elles qui savent d'abord ce qui est bien pour elles ou pas en fait, et que c'est aussi ça la question, c'est qu'est-ce qu'on a à défendre aussi entre femmes ou dans les féminismes qu'on a envie de porter, c'est est-ce que on défend une vision hégémonique et absolue de la femme libérée qui serait pas prostituée, surtout pas voilée, surtout pas enfin
sexy mais pas vulgaire.
Mais voilà, et du coup qu'il y aurait une image comme ça de la femme libérée et que c'est cette voie-là qu'il faudrait prendre, ou est-ce qu'on prend en compte que on a chacune des vécus et des parcours différents et que en fait les leviers d'émancipation ils sont multiples en fait et que elle disait notamment dans cette conférence qu'elle en avait marre de cette double injonction qu'elle subit elle au quotidien.
Injonction, ça veut dire des demandes ou des consignes à suivre.
Ouais, voilà.
Pas forcément ensemble, quoi.
Donc injonction contradictoire, à savoir que elle, en tant que femme musulmane et féministe, elle doit sans arrêt prouver à ses camarades féministes qu'elle est bien féministe, et elle doit sans arrêt prouver à ses camarades musulmans qu'elle est bien musulmane et que c'est pas une traître à la cause parce qu'elle est féministe. Donc du coup, il y a vraiment ce truc-là en fait dont elle parlait et qui était vraiment intéressant. C'est encore la double peine en fait, de toujours prouver deux fois plus aux autres qui tu es, quelle valeur tu as, et etc., etc., quoi. C'est vraiment très très gros. Et d'ailleurs, il y avait un exemple. Elle donnait un exemple aussi pendant son allocution là, qui était hyper intéressant et qui montrait à quel point ça devient absurde cette loi, en l'occurrence qui a été votée, hein, qui est mise en application, et que il y a un lycée à Saint-Denis qui maintenant interdit même les robes longues.
Parce que c'est signe religieux.
Voilà, parce que c'est associé à cette image
de la femme musulmane. Et non, mais bon, enfin, on en rigole, mais c'est vraiment totalement absurde et super super grave parce que on va vraiment loin dans le caractère racial de cette mise en application de la loi, quoi.
Oui, et puis au-delà, enfin bon,
raciste, pas racial. Raciste.
Certes, il y a des femmes qui se font imposer des ports de foulard ou de voile ou de robe, peut-être qu'elles en auraient pas envie.
Mais comme il y a des femmes qui s'imposent de s'épiler.
Même dans ces cas-là, en fait, si on leur interdit d'évoluer dans l'espace public avec cet habillement, c'est quoi le résultat?
Le résultat, c'est
qu'elles restent chez elles et qu'elles sortent plus et qu'elles ont plus de lien avec d'autres personnes. Donc, même si on part du principe que c'est que des choses qui sont imposées, si on se concentre sur le résultat concret de telle loi, et ben, c'est encore plus de discrimination, quoi. Mm-hmm. Et après, faut pas non plus oublier que la question vestimentaire, ça peut être un choix personnel. C'est-à-dire, on peut décider de porter un voile ou des jupes longues ou un foulard, enfin, peu importe, parce qu'on en a marre aussi d'être dévisagé comme un objet sexuel dans la rue. Et que c'est un outil pour se prémunir de ce regard inquisiteur des hommes ou de ce regard de comparaison des autres femmes et que oui, ça peut être ça et puis ça peut être d'autres choses, quoi.
En tout cas, c'est quand même bien de penser à interroger les personnes concernées dans ces cas-là aussi et de pas avoir des jugements a priori en fait sur voilà. Mais du coup, on en discutait hors antenne et ça nous amenait à prolonger en fait cette question-là des tenues vestimentaires, etc., et de quelles injonctions sont faites aux femmes pour qu'elles rentrent bien dans le moule ou en tout cas qu'elles correspondent à ce qu'on attend d'elles, etc., et que il y a aussi d'autres enjeux en fait dans les établissements scolaires quand c'est pas le foulard, c'est la question du string.
Maintenant il y a quand même des débats pour ou contre le string. La question elle est pas là parce que alors les pour, ça serait c'est un objet d'émancipation. Enfin voilà, on se sent libre en étant en string. Et les contre, ça serait mais non, c'est un objet où le corps devient sexuel et c'est fait pour le regard des hommes. Alors qu'il y a même pas de débat à avoir sur ce plan-là. La seule chose, c'est de faire en sorte que les femmes puissent décider de mettre les habits qu'elles veulent et puis point barre, quoi.
Mais c'est vrai que dans les établissements scolaires, c'est des vrais enjeux. Qui sont posés par les équipes éducatives, etc., et après des consignes qui sont délivrées aux élèves. Et moi, en l'occurrence, dans mes lieux de travail, c'est des choses que j'ai pu voir, en fait, des adolescentes qui sont confrontées à des discours complètement contradictoires. À la fois, elles doivent venir habillées de manière très féminine. On leur impose quand même de pas venir. Enfin, c'est pas très correct, surtout dans des filières, par exemple, professionnalisantes où on va devenir coiffeuse ou où on va être dans les métiers de la mode ou je sais pas quoi, il faut venir bien habillé. Alors faut déjà définir ce que veut dire bien habillé, mais en l'occurrence là ça veut dire pas en jogging ni avec des t-shirts trop larges ou des jeans trop larges, mais donc il faut être belle, sexy, mais pas vulgaire. Donc, va savoir comment tu t'en sors là-dedans, entre les profs qui considèrent qu'un décolleté plongeant, c'est vulgaire, et d'autres qui considèrent que c'est sexy et que ça passe, ou que le string qui dépasse du pantalon, c'est vulgaire pour certains, mais c'est sexy pour d'autres. Enfin, en tout cas, voilà, elles naviguent là-dedans en permanence, elles sont ballottées d'un côté et de l'autre, et à la fois, elles intègrent des codes et des normes qui sont hyper fortes, parce qu'elles intègrent très très vite ce qu'elles ont le droit de faire ou pas, en termes d'habillement. Et c'est clair qu'il y a vraiment une injonction là-dessus aussi, hyper forte, sur les tenues vestimentaires, et après, enfin, évidemment, même au niveau du corps, etc., c'est quand même mieux d'être mince aussi. Si on veut être coiffeuse,
et puis
peser 90 kilos pour 1m50, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Ou pour être esthéticienne, ou enfin. Donc voilà. Donc en fait, cette question-là, elle est de toute façon hyper présente et dans l'espace public et au travail pour les femmes qui sont sur le marché du travail ou à l'école. De toute façon, voilà, quand c'est pas le foulard, c'est d'autres choses.
Et puis ça touche aussi à d'autres trucs, c'est-à-dire que là, par exemple, sur en Isère, il y a maintenant une des nouvelles modes, j'ai envie de dire, même si c'est pas du tout drôle, c'est que les mamans voilées n'ont plus le droit d'accompagner les élèves sur les sorties scolaires. Or, eh ben, en gros, c'est les seuls qui continuaient de se bouger pour accompagner les élèves. Donc, enfin, pas les seuls, mais en tout cas, c'est principalement elles, quoi. Donc voilà, ben, les élèves, ils auront plus de sorties, quoi. Super.
Ouais, puis alors,
donc elles sont pas assez bonnes mères parce qu'elles sont voilées pour accompagner les enfants en sortie scolaire. C'est quoi qu'il y a derrière, en fait, tout ça? C'est...
Ouais.
Bon, mais ceci dit, il est 21h. Hein, donc on va devoir s'arrêter là.
Peut-être on fait le petit agenda quand même.
Ouais, et puis surtout et puis aussi la réponse au quiz quand même. Donc on va un petit peu déborder. Alors d'abord l'agenda, comme ça vous nous écoutez jusqu'à la fin. On va avoir la réponse au quiz. Donc qu'est-ce qu'une personne cisgenre? Alors le premier truc on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que la semaine prochaine Calibre c'est une émission thématique. Donc la semaine prochaine ce sera le, je ne sais pas, 26 juin. Voilà, le 26 juin.
Non, le 26 mai.
Alors, les rappels à l'ordre hétérosexuel s'appellera cette émission. Nombreuses sont les petites phrases du quotidien, les chansons, les images qui nous rabâchent combien l'hétérosexualité serait la seule orientation sexuelle valable. Est-ce que tu as des exemples dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage? Et comment l'évidence de l'hétérosexualité perdure à travers ces rappels à l'ordre? Mais où se niche donc cette homophobie ordinaire? On vous invite à en discuter à Calibre, donc jeudi prochain, le 26 mai, de 20h à 21h. Quelle violence ça crée dans ta vie? Est-ce que c'est facile ou pas de répliquer à tout ça? Que tu sois homo ou hétérosexuel, quelles sont tes stratégies pour lutter contre l'hétérosexisme? Donc voilà, ça c'est si vous avez envie de nous appeler la semaine prochaine en direct ou de nous envoyer d'ici là des témoignages par email à cas-libre. Au pluriel, @poivron.org. Et j'en profite pour rappeler que pour retrouver les émissions, pareil, c'est sur le site k-libre.poivron.org.
Voilà. Du coup, le deuxième événement, enfin, c'était pas un événement, là, mais en tout cas, le deuxième truc qu'on voulait annoncer, Tabataka.
Ouais, je continue. Alors, c'est un premier atelier dans le cadre de plusieurs ateliers qui vont avoir lieu et qui s'appelle le projet Outils. Et c'est un atelier qui est mené par un monsieur qui s'appelle Daniel Mang et qui va avoir lieu samedi et dimanche, là, donc les 21 et 22 mai, là, en fin de semaine. Donc, c'est toute la journée, hein, de 9h à 11h et 14h à 17h. Et sur Grenoble, enfin à Fontaine, à côté. Et l'idée, c'est un atelier autour du contact improvisation, donc la danse contact et l'improvisation, et d'autres pratiques corporelles et de communication, par exemple la co-écoute ou le mouvement authentique, donc c'est tout des techniques en fait, et donc tout ça comme ressource pour une politique antisexiste. Aussi antiraciste, anticapitaliste et anti-autoritaire, donc pour mettre en place une politique antisexiste par les hommes. Voilà, donc c'est un atelier sur 2 jours, et ça s'adresse, donc cet atelier s'adresse surtout à des hommes cisgenres, c'était ça le quiz, on va vous expliquer, mais assurément ouvert à des personnes de tout genre. Donc peut-être on explique ce que c'est cisgenre, et après je vous donne les coordonnées pour vous inscrire.
Oui, donc cisgenre.
Alors cisgenre,
ça n'a rien à voir avec ciseaux.
Ou cisgenre non plus, non. Je pense. Bon, alors cisgenre, la définition, en fait, c'est un adjectif qui qualifie une personne dont l'identité de genre est en concordance avec son sexe déclaré à l'état civil. C'est-à-dire que si votre carte d'identité, enfin votre acte de naissance, vous êtes déclaré fille, femme, femelle, eh ben dans votre attitude, comportement, la manière dont vont vous voir les gens, bien vous êtes bien considéré comme une femme. Et inversement.
Et vous vous sentez femme.
Et vous vous sentez femme.
Enfin, ça vous va comme catégorie,
voilà.
Quoi.
Voilà. Et y a un autre terme un peu qui existe que moi j'avais entendu, c'est un homme bio ou une femme bio, c'est-à-dire biologiquement né comme ça, enfin en concordance effectivement avec son genre et son sexe. Et on va dire que l'inverse ou l'antonyme, enfin bon, l'inverse c'est une personne transgenre.
Ça existe pas antonyme?
Si.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Voilà, donc pour revenir sur cet atelier, donc il est ouvert à des hommes cisgenres, bio, mais assurément ouvert à des personnes de tout genre, donc qui se considèrent hommes,
ou pas, bon bref.
Celui qui se considère homme, je pense.
Ouais, qui se considère homme. Hein. Pour plus de renseignements, et puis peut-être pour s'inscrire, parce que c'est pour ce week-end, donc faut aller vite. Donc il y a soit un mail. Alors, le mail, c'est GJ1214B. Oui, oui, oui. Donc la lettre G, la lettre J, 12, 14, la lettre B, @riseup.net. Donc riseup, R-I-S-E-U-P. Net.
En tout cas, voilà, si vous voulez des infos et qu'on vous redonne toutes ces coordonnées, etc., vous pouvez nous écrire sur le mail de Calibre. On vous transférera toutes ces informations sans problème, quoi.
Voilà, bon, on va vous laisser tranquille pour ce soir. Donc, c'était Calibre du 19 mai 2011. Il fait 28 degrés dans le studio. Non, faut pas que je lise tout le capuché en face, on s'en fout. Alors, à la technique, c'était Noémie, au téléphone Mud, au micro Emma et Myriam.
Et on vous dit à la semaine prochaine.
Et on vous dit à la semaine prochaine pour l'émission sur des rappels à l'ordre hétérosexuel. Bonne soirée.
Ciao, ciao. Corps.
Amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.